Alors bonjour ou bonsoir à toutes et à tous pour cette nouvelle conférence du cycle dans le cadre de l'exposition Le papyrus dans tous ses états de Cléopâtre à Clovis. Alors vous avez vu que c'est une exposition qui est construite autour d'une pérégrination autour du bassin méditerranéen et qui commence en Égypte et qui se termine justement en France. Et vous avez vu que les derniers textes qui sont exposés, ce sont ces fameux papyrus mérovingiens qui viennent des archives nationales et qui constituent probablement le clou de cette exposition. Et pour en parler ce soir, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir le conférencier Laurent Morel, qui est directeur d'études à l'École pratique des hautes études, qui est titulaire de la direction d'études pratiques médiévales de l'écrit documentaire et qui est le meilleur spécialiste pour nous parler justement de ces papyrus tout à fait exceptionnels, puisque il plonge, on va dire, un petit peu dans la mythologie de notre nation française. Et donc, je suis très heureux de pouvoir lui céder la parole.
Merci, Jean-Luc. Je ne suis pas le meilleur spécialiste des papyrus mérovingiens, loin de là. J'étais peut-être un des disponibles aussi en cette spécialité. Mais il faut dire que les spécialistes ne sont pas forcément non plus très nombreux. Alors je vais commencer par un témoignage qui n'est pas mérovingien, qui est un petit peu postérieur, et même de quelques siècles. Le témoignage de quelqu'un qui est connu parmi vous, c'est l'abbé Suger, on dit plutôt Suger que Sugère, de Saint-Denis. Vers 1144, donc Sugère, ami du roi Louis VI, régent du royaume et célèbre bâtisseur du chœur et de l'avant-nef de l'abbatiale actuelle de Saint-Denis, rédige un ouvrage passé à la postérité sous le nom de De Administratione. On devrait rajouter presque soi, hein, puisque c'est l'œuvre administrative, mais c'est plutôt mon œuvre administrative, donc son œuvre administrative. Et d'ailleurs, un manuscrit du XIVe siècle donne pour titre Gesta Sugeri Abbatis, c'est-à-dire les actions, les hauts faits de l'abbé Suger. Suger, il parle beaucoup de lui. Et il revient à l'occasion sur son enfance et sa jeunesse passée au monastère. Il raconte alors qu'il passait, à cette époque, beaucoup de temps dans les archives. La citation est très, très courte. Je la donne. Ben alors, ça commence bien. Ah, si, ça commence bien. Tandis que dans l'âge studieux de mon adolescence, je compulsais les anciennes chartes de possession conservées dans le dépôt d'archives et que j'étudiais les immunitatum biblos en raison des manœuvres malhonnêtes de nombreux fraudeurs, et on peut rajouter ensuite ce qu'il dit, il me tombait souvent entre les mains une charte de fondation du monastère d'Argenteuil, etc. Là n'est pas le problème, là n'est pas la question ici. Ce qui est intéressant, c'est le terme de biblos immunitatum, ces biblis immunitatum qui ont posé bien des problèmes aux historiens, qui l'ont souvent compris et traduit par collection, registre, cartulaire. Bref, l'idée d'une compilation. En fait, il ne s'agit pas de livres, mais d'écrits sur papyrus. Ces biblis immunitatum, ce sont les chartes écrites sur papyrus qui confèrent des immunités, comprenons, sans aller, disons, bien loin dans les explications, des actes écrits qui confèrent des libertés, des prérogatives, des privilèges au sens de droit donné. Pour notre propos, le témoignage, un peu complaisant de sujet, mais enfin, il avait la modestie immodeste, si j'ose dire, parfois même l'humilité orgueilleuse, peut-être, montre la conscience aiguë que les moines de Saint-Denis avaient alors, dans la première moitié du XIIe siècle, de la richesse de leur monastère en documents écrits sur papyrus. Certes, mais de quel papyrus l'abbé Suger parlait-il? Les papyrus qu'il avait brassés et rebrassés à l'entendre, le verbe c'est revolvere, étaient-ils vraiment ceux que l'on connaît aujourd'hui? Bien, la réponse est non, ou plutôt pas vraiment ou pas tout à fait. Beaucoup lui étaient invisibles et en cette période, je n'ose pas dire masqués. Tout d'abord, peut-être quelques chiffres, disons, sur les papyrus conservés aux archives nationales. Aujourd'hui, Nous conservons 13 actes royaux mérovingiens sur papyrus, tous conservés aux Archives nationales à Paris. 11 pièces datent d'entre 625 et 679, et la date de 679 est la dernière date possible pour l'un de ces actes, les deux derniers étant probablement arrangés entre ces mêmes termini, entre ces mêmes dates extrêmes. Donc, nos papyrus mérovingiens royaux couvrent un demi-siècle de royauté mérovingienne, ce qui est peu au regard de la période mérovingienne qui couvre 270 ans, par convention un petit peu, entre l'avènement de Clovis en 481, on pourrait penser aussi à 508, la reconnaissance de Clovis par l'empereur Anastase, et l'avènement du premier roi carolingien, le fameux coup d'État de Pépin le Bref de 751, coup d'État, comme on disait, naguère ou jadis. Les papyrus royaux mérovingiens ne sont pas les seuls actes vrais sur papyrus conservés aux Archives nationales. Il en existe d'autres. Certains remontent vraiment à l'époque mérovingienne. Il s'agit de deux copies de testaments de grands laïcs, celui d'une dame Ermentrude et le testament dit du fils d'Ida, tout simplement parce qu'on n'a pas son nom, mais on sait sa filiation. Il y a aussi un fragment d'acte privé assez obscur d'environ 620. Enfin, un acte d'échange de biens entre deux abbés de la région parisienne, un abbé de Tussonval, Magnoald, et Lambert, abbé de Saint-Germain, qu'on appelle maintenant l'Auxerrois. Un document datable de 691. Voilà pour les papyrus vrais de l'époque mérovingienne. Mais il existe aussi aux Archives nationales des papyrus postérieurs à l'époque mérovingienne. Comme vous le savez, après avoir vu l'exposition, le papyrus a continué d'être utilisé par la chancellerie pontificale jusqu'au milieu du XIe siècle. On conserve ainsi, aux Archives nationales, un privilège, une bulle, comme on dit, de Nicolas Ier, grand pape du IXe siècle, une bulle de 863, et une bulle du pape Formose, de 893, moins célèbre, sauf qu'il a mal fini, disons, assassiné. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi un fragment d'une lettre du pape Adrien Ier de 788, qui est le plus ancien original pontifical que l'on connaisse. Ce n'est pas un privilège, c'est une lettre. Une lettre de l'abbé, ou plutôt futur abbé de Saint-Denis, Maginarius à Charlemagne, dans les mêmes eaux chronologiques. Enfin, l'énigmatique fragment de lettres d'un empereur byzantin non identifié. Tous ces documents étaient au Moyen-Âge conservés dans le Chartrier, c'est-à-dire les archives de l'abbaye de Saint-Denis. Revenons maintenant à notre question. Parmi les documents authentiques écrits sur papyrus et qui soient mérovingiens, actes royaux, actes privés, ou plus tardifs, les bulles des papes, par exemple, lesquels l'abbé Suger connaissait-il? En fait, très peu d'entre eux. Deux seulement de ses 13 diplômes royaux lui étaient accessibles, à savoir l'acte de Dagobert de 629-637, donc, qui est présent. Alors, hop, ici, qui est présent dans l'exposition, et de même d'ailleurs que le plus célèbre de ses diplômes au royaume mérovingien, le diplôme de Clovis II de 654, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Quant aux bulles pontificales qu'on a énumérées, une seule aussi, celle de Nicolas Ier, était alors bien visible. En revanche, Suger avait vu dans sa jeunesse, du moins on peut le conjecturer, d'autres documents sur papyrus. C'est sans doute à eux qu'il pensait. Ces autres documents prétendaient être de l'époque mérovingienne, mais bon nombre d'entre eux avaient en réalité à peine 50 ans d'âge au moment où le jeune Suger, disons amateur d'archives, les compulsait avec avidité. Il s'agit en effet de forgeries réalisées dans les années 1060 par les moines de Saint-Denis pour étayer les prétentions de la communauté, prétentions les unes de prestige, je n'insiste pas, les autres bien concrètes, qui visaient notamment à libérer, on se souvient du terme immunitas qu'on a vu tout à l'heure sous la plume ou le calame de Suger, donc pour libérer l'abbaye de l'autorité de l'évêque de Paris et conférer ou étendre des droits et prérogatives diverses. En tout, les moines faussaires des années 1060 réalisèrent au moins 10 faux sur papyrus, dont 8 sont conservés. Un faux diplôme du roi Dagobert, 5 fausses bulles pontificales postérieures, censées être du 8e au 10e siècle, un faux privilège de l'évêque de Paris, Landry, contemporain de Clovis II, notre bon roi Clovis II, dont on voit ici le superbe diplôme, et un faux acte synodal daté de 862. Là, on peut dire qu'avec ce diplôme synodal de 862, un diplôme donné soi-disant à un synode de Soissons, là, les faussaires allaient beaucoup trop loin, car au IXe siècle, aucun acte synodal, aucun diplôme synodal, si on peut dire, n'était plus sur papyrus dans le monde gaulois, du royaume franc. Autant d'actes, donc, que l'on appelle des pseudo-originaux. À l'époque de Suger, il existait probablement aussi d'autres actes faux, peut-être, disons, des actes faux que les faussaires avaient, pour lesquels plutôt les faussaires avaient conçu peut-être des papyrus, disons des pseudo-originaux, c'est possible, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr pourquoi ? Tout simplement parce que ces autres actes faux, on ne les connaît aujourd'hui que par leur copie dans des cartulaires postérieurs au XIIe siècle. Gros cartulaire, le livre des privilèges et le cartulaire blanc de Saint-Denis. Les faussaires de 1060 avaient une bonne technique, une technique éprouvée. Ils eurent l'idée, alors décidément je suis fâché avec cela, ils eurent l'idée de faire des faux sur papyrus, ce qui n'était pas facile forcément au milieu du XIe siècle, il fallait avoir la matière première. Mais ils décidèrent de le faire et pour faire plus vrai, donc, ils utilisèrent le matériau qui convenait, du moins si l'on voulait, disons, se référer au 7e siècle. Mais comme vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, ils ont été tellement, disons, dynamiques qu'un de leurs faux, eh bien, est faux et malencontreusement sur papyrus à une époque où, disons, il ne pouvait être que sur parchemin. Alors, il fallait se procurer la matière première. Et nos moines faussaires eurent alors l'idée d'utiliser le verso vierge de papyrus authentique en masquant les textes des rectos avec d'autres papyrus ou avec des parchemins. Pour faire un beau de bon format, ils n'hésitèrent pas non plus à jointoyer des morceaux de papyrus découpés, retaillés. Disons, on imagine tout à fait un travail disons, d'artisan et de petit bricoleur disons, dans une petite officine disons, d'un espace reculé du monastère de Saint-Denis. Alors, on le voit ici, au recto, deux actes vrais recoupés, juxtaposés et masqués. À gauche, vous avez un diplôme vrai de Clotaire II. À droite, un peu plus récent de Clotaire III. Je vous ai mis les dates. Et je vous ai mis entre parenthèses également les références dans l'édition, disons, classique de référence qu'on a en ligne également, celle de Théo Koelzer, parue en 2001. Et vous voyez au verso, eh bien, l'acte faux, aux lignes, chevauchant la jointure, je dirais même plutôt les jointures, mais il y en a effectivement une que l'on voit bien, et vous voyez un petit peu comment cela se passe, donc avec la nécessité, naturellement, peut-être de masquer, disons, cette partie vraie, les actes vrais. Alors, comment fait-on ? Eh bien, il y a un exemple. Le même exemple que vous avez ici, eh bien voilà comment ils ont fait. Là, ils ont sacrifié deux diplômes de l'empereur Louis le Pieux, 1830, il me semble, Et ces diplômes de Louis Pieux, ils les ont à nouveau, disons, retaillés éventuellement, ajustés à leurs besoins, et nous les conservons, et nous conservons aussi sur ces parchemins la trace, donc, de l'essai, ce qu'on appelle une décharge d'encre laissée par les papyrus mérovingiens. Quand on les retourne, d'ailleurs, et qu'on met en miroir cette décharge d'encre, eh bien, on peut lire beaucoup mieux un certain nombre de choses. On voit notamment la deuxième ligne, « Per epistolas donationes ». Donc, n'ayez crainte, c'est bien parce que je l'ai regardé avant que je peux me permettre de vous le dire, car l'écriture mérovingienne, on a toujours du mal à s'y habituer un petit peu, et surtout, disons, lorsqu'elle est sur des papyrus qui ne sont pas toujours de bonne qualité, ou plus exactement, disons, de bon état de conservation. Alors, ce papyrus faux de Dagobert, enfin ce pseudo-original de Dagobert, eh bien, il a nécessité au moins le sacrifice de deux papyrus vrais et de deux diplômes de Louis Pieux vrais aussi. Vous voyez que les faussaires n'hésitaient pas à fouiller dans le chartrier de Saint-Denis, qui était heureusement très abondant, pour sacrifier des diplômes. Ont-ils choisi des diplômes au hasard, à la légère ? Ce n'est pas vraiment le cas. On a plutôt l'impression qu'ils ont sacrifié des diplômes qui, pour eux, n'avaient plus de valeur, disons, statutaire, ou bien n'avaient plus de grande valeur patrimoniale, car c'était certes des titres, mais pour des possessions qu'ils jugeaient suffisamment protégées pour que les titres éventuels soient détruits. On s'aperçoit ainsi que parmi les diplômes de Louis le Pieux sacrifiés sur parchemin, eh bien, il y a surtout des confirmations d'échange, un type d'acte impérial du IXe siècle, fréquent, mais qui était, disons, je dirais, des actes d'administration, hein, par lesquels le souverain confirmait des échanges souvent passés entre ses propres fidèles et des monastères, des établissements ecclésiastiques. Donc, il y a du choix. Il y a choix, je veux dire, dans le sacrifice. Conséquence pour nous, eh bien, on peut dire qu'elle est double. Alors, les papyrus vrais sacrifiés sont souvent endommagés, voire à l'état de fragments, de lambeaux, d'où le titre, disons, de la conférence. Vous en voyez ici un exemple. Fragment d'acte en faveur de Saint-Denis, oui, eh bien, on peut dire qu'on ne voit pas grand-chose sur ce papyrus, et d'ailleurs, il est très difficile de pouvoir faire une analyse diplomatique, un résumé, un regeste, comme on dit, pour cet acte-là. Mais il donne quand même des informations, et notamment, il donne le nom du référendaire d'Adon, c'est-à-dire le futur Saint-Ouen. Donc, toute bribe, toute lettre, tout mot a son importance sur ces papyrus. Les moins endommagés souffrent tous de lacunes, de desquamations, ce qui provient naturellement du mode de falsification qu'ils ont subi. Mais d'autre part, on peut dire que le deuxième aspect de la conséquence, c'est que si ces papyrus ont été sacrifiés, certes, eh bien, un avantage pour eux, c'est qu'ils sont parvenus jusque nous. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une... Bon, je ne sais pas, il y a... Ça va mieux. Ils sont parvenus jusqu'à nous, dans l'état qui est le leur, certes, mais tout de même, on peut en profiter. Et c'est à partir du XVIIe siècle qu'on les a redécouverts. Donc, c'est le rôle de Mabillon qui a publié la très grande majorité dans son De re diplomatica de 1681. Quittons maintenant les pseudo-originaux et revenons aux originaux. Au total, encore une fois, un petit peu de chiffres et de comptes, de dénombrements. 38 originaux des rois mérovingiens sont parvenus jusqu'à nous. 13 actes inscrits sur papyrus, 25 actes sur parchemin. Alors là, pour les actes sur parchemin, il y en a 24 aux Archives nationales et il y en a un à la Bibliothèque nationale de France. Alors que Les actes sur papyrus sont datés, comme j'ai dit, entre 625 et 679. Les actes sur parchemin datent d'entre 679 et 717. On reviendra tout à l'heure sur ce hiatus et ce basculement. Que représentent ces 13 originaux dans la documentation royale mérovingienne conservée? Bien sûr, on ne peut jamais rien dire de la documentation produite. C'est le grand mystère, effectivement. Alors, on peut toujours dire qu'il y avait un flot ininterrompu de papyrus qui était donné par la chancellerie mérovingienne. D'autres spécialistes disent que finalement, non, le gouvernement par l'écrit était certes important, mais il n'était peut-être pas aussi considérable qu'on peut l'imaginer. Bref, c'est un peu la bouteille à l'encre. Donc, documentation royale mérovingienne conservée. On connaît le texte de 209 actes royaux. Si l'on évoque les mentions de ce qu'on appelle les déperdita, hein, les mentions d'actes aujourd'hui perdus, eh bien, il y a 407 mentions de déperdita qui ont été recensées. Sur ces 209 actes royaux, il y a cependant 131 actes qui sont des faux, falsifiés ou forgeries. Les 78 actes vrais, eh bien, ce sont nos 38 originaux sur papyrus et sur parchemin, et 40 actes connus en copie qui ont été sauvés par la critique diplomatique, la critique d'authenticité, qui est une discipline sévère et parfois injuste, mais souvent sévère et juste, tout de même, et qui fait des progrès en essayant d'éviter l'hypercriticisme et, parfois le laxisme, intellectuel. Restons sur les 38 actes royaux originaux, donc papyrus et parchemin. Tous proviennent de l'abbaye de Saint-Denis, à l'exception de deux diplômes royaux, mais sur parchemin. L'un de 702 a été expédié pour l'abbaye Saint-Germain-des-Prés, l'autre, dont la formule de date nous échappe, mais qu'on peut dater d'entre 694 et 711, et pour l'abbaye Saint-Pierre-des-Fossés, aujourd'hui Saint-Maur-des-Fossés. Autrement dit, avec ce décompte-là un peu fastidieux, eh bien on peut retenir que tous les originaux sur papyrus ont été destinés à Saint-Denis ou ont été transmis par Saint-Denis. La distinction est intéressante. En effet, on conserve deux actes sur papyrus délivrés à des particuliers. Il s'agit d'un précepte bien conservé de Dagobert, celui que j'ai déjà montré tout à l'heure, de 629-632, l'un des deux que sujet pouvait avoir connu, et il est présent à l'exposition, et puis un acte fragmentaire de Clovis II en faveur d'une dame à Manchildis, et qui date des années 639-650. On ignore quand et pour quelles raisons ces pièces sont entrées dans le chartrier de l'abbaye de Saint-Denis. Généralement, quand on est en présence de ce cas de figure, ce qui est assez fréquent, et ce qui nous permet d'atteindre des choses que l'on ne pourrait pas atteindre si on n'avait pas ce cas de figure, c'est-à-dire, disons, aller au-delà des destinataires ecclésiastiques, qui sont comme le filtre, disons, incontournable des sources du Haut Moyen-Âge et du Moyen-Âge central, eh bien, généralement, dans ce cas de figure, on suppose que ces actes de particuliers documentaient juridiquement des possessions passées entre les mains du monastère. Mais il peut y avoir aussi d'autres possibilités, et l'ingéniosité des historiens, disons aujourd'hui même, découvre d'autres possibilités, remise de chartriers laïques entre les mains des ecclésiastiques, par exemple, comme on peut le montrer, mais on peut le montrer pour des époques un petit peu postérieures du Xe siècle ou du XIe siècle, comme par exemple à Saint-Victor de Marseille. Ce que ces papyrus nous disent maintenant de ces rois, du pouvoir royal, peut-être de la royauté. Je n'irai pas très loin là-dedans, ici. Mais tout de même, c'est là où je voudrais quand même vous montrer un certain nombre de choses. Les originaux sur papyrus émis par la chancellerie des rois mérovingiens sont... Et là, on peut être fier ici de cela, les plus anciens actes de souverains occidentaux qui nous soient parvenus sous leur forme primitive. aucun autre des royaumes nés sur le territoire, les territoires de l'Empire romain occidental. J'avais écrit au début sur les décombres de l'Empire romain occidental, mais comme on ne sait pas trop s'il y a eu des décombres de l'Empire romain, et si l'Empire romain n'a pas subsisté plus longtemps qu'on ne le pense, finalement. Quand je pense à ces royaumes, c'est les royaumes vandales, ostrogothiques, visigothiques, burgondes, enfin lombards. Eh bien, aucun de ces royaumes n'a laissé de documentation royale originale. J'ai dit que les 13 papyrus originaux que l'on conserve jalonnent une période assez brève, 625, 675, 679, disons, pour faire gros. Quatre règnes sont jalonnés, ceux de Clotaire II, 584-629, alors, je ne sais pas si ça veut... Ah, ben, décidément, toujours des problèmes. Dagobert Ier, 629-639, notre grand Dagobert, bon roi Dagobert, mais qui était aussi un roi très autoritaire, enfin, du moins, qui avait beaucoup d'autorité, et qui n'hésitait pas, disons, à aller assez brutalement dans la résolution de certains problèmes. Clovis II, fils de Dagobert, 639-657, et Clotaire III, l'un des fils de Clovis II, roi de 657 à 673. Je ne vous accablerai pas du récit événementiel de la période, Dieu m'en garde, je serais certainement incapable, et d'autre part, disons, cela s'apparenterait parfois à un récit digne de Game of Thrones. Je dirais simplement, on rappellerait quelques éléments importants structurant un petit peu ce que l'on peut dire et ce que représentent ces papyrus. Partons, disons, de Clotaire II et partons, disons, de l'époque, disons, qui nous concerne et qui concerne, disons, notre documentation papyrologique. À partir de 613, les royaumes déchirés par la guerre civile de la seconde moitié du VIe siècle, souvenez-vous la célèbre Brunehaut, ont été unifiés sous le sceptre de Clotaire II, fils de Chilpéric. L'Assemblée de Paris, du 18 octobre 614, a fixé les modalités de la gouvernance nouvelle de ce royaume unifié et les rapports du roi avec l'épiscopat et l'aristocratie détenteur de fonctions administratives. C'est le célèbre Édit de Paris de 614. Et il faut lui associer aussi les dispositions d'un concile qui avait lieu le 10 octobre 614, disons, concernant le monde ecclésiastique spécialement. Mais l'unité retrouvée est fragile et ne remet pas en cause la structure fondamentalement tripartite du royaume franc. Le royaume des Francs, ce sont en fait ce qu'on appelle les tria regna de la Neustrie, de l'Austrasie et de la Bourgogne. La période jalonnée par nos diplômes royaux est très heurtée, mais marquée par un fil rouge. C'est l'ascendant de l'association entre deux de ces regnats, deux de ces royaumes, la Neustrie et la Bourgogne, et la tendance centrifuge de l'Austrasie. Preuve en est le fait suivant. Dagobert, dont la mère est austrasienne, Clotaire II a eu plusieurs épouses successives, est placé par son père Clotaire II à la tête de l'Austrasie en 623. Mais il reste soumis à son père. Et ce qu'il illustre, c'est les nombreux voyages qu'il a dû faire auprès de son père, qui lui réside en Neustrie, en Parisie. 10 ans plus tard, en 633, Dagobert fait de même. Il place son fils Sigebert III à la tête de l'Australie, qui est lui aussi d'ailleurs fils d'une Austrasienne, à la tête de l'Austrasie. Et quand le futur Clovis II naît en 634-635, eh bien, Dagobert prévoit le partage de son royaume, du grand royaume, en deux entités, l'Austrasie et la Neustrie-Bourgogne. Clovis II recevra donc ce double, enfin, disons, ces deux regnats associés de manière, disons, un petit peu, non pas lâche, mais de façon difficile à synthétiser et, disons, et à concevoir. Mais cette association est quand même durable à l'échelle de plusieurs décennies. Les centres de pouvoir de ces royaumes sont les palais, et je parlerai des palais de Neustrie. Et c'est logique, puisque nous pouvons commencer avec le royaume réunifié de Clotaire II. Les centres de pouvoir sont donc les palais des sedes regni, des cathédrales regni. C'est là que sont émis les actes royaux. Clotaire II, avant tout roi en Neustrie, réside souvent en son palais de Clichy, dont on peut dire que Saint-Denis est comme une annexe religieuse. Comme l'a bien montré Josiane Barbier, qui, elle, est certainement la spécialiste de la période mérovingienne, le roi mérovingien ne gouverne pas en se déplaçant. Les palais où réside le roi sont plutôt des pôles d'attraction où les grands viennent périodiquement. Les résidences royales sont plurielles, mais elles dessinent un espace de gouvernement finalement assez restreint. L'espace de gouvernement neustrien, c'est avant tout le Parisis et le Soissonnais. Et quand le roi se déplace hors de son espace habituel, ce déplacement a un sens politique. Les acteurs royaux indiquent le lieu où ils ont été donnés dans une formule de date. Malheureusement, cette indication manque sur la plupart des papyrus originaux conservés. Bien sûr, on possède des indications de lieu sur les actes en copie, mais c'est parfois un petit peu sujet à caution. Malheureusement, comme je disais, cette indication manque, et quand elle manque sur les papyrus originaux conservés, eh bien, on perd une information importante. Elle subsiste en fait sur trois actes sur papyrus. Un acte de Clotaire II, et là, le nom de lieu, c'est un palais que l'on identifie avec Éterpigny en Artois. Un acte de Dagobert avec Clichy, disons donné de Clichy, et l'acte solennel de Clovis II de 654, que je vous ai montré tout à l'heure, qui est donné à nouveau à Clichy, car si Clichy était un palais important, presque la capitale du temps de Clotaire II, elle demeure une résidence importante durant les règnes des deux successeurs. L'acte de Clotaire II, disons de 625, celui qui est donné à Éterpigny, illustre sans doute le phénomène du déplacement politique. Le roi s'est déplacé en Artois, non loin de Vitry-en-Artois, à Éterpigny, donc, je disais, sans doute pour régler une question très récurrente liée à une revendication territoriale considérable de la part des Austrasiens. Donc vous voyez que, disons, ces actes sur papyrus, par la date de lieu, quand on la connaît, et ces actes mérovingiens, disons, sont aussi des instruments politiques. Ils illustrent en quelque sorte, disons, ce que pouvaient être les moments où l'on donnait des actes, où l'on passait des actes. C'était naturellement des moments où il y avait un message qui était passé en direction des grands, des fidèles royaux, du royaume et du royaume d'une manière générale. Il faut donc insister sur un point. Avec tout ce que l'on a vu depuis tout à l'heure, eh bien, nos papyrus sont tous issus de la chancellerie royale de Neustrie-Bourgogne. On ne conserve aucun papyrus issu de la chancellerie d'Austrasie. Quelle était-elle ? Quelles étaient les différences dans les pratiques concrètes, des pratiques que l'on ne voit que sur les originaux aujourd'hui ? Eh bien, c'est très difficile à savoir en l'absence, disons, de cette documentation primitive originale. Ce qu'il est important de noter, c'est que la communauté monastique de Saint-Denis, pourvoyeur des actes qui sont conservés, est bien au cœur du royaume de Neustrie. C'est un très grand sanctuaire. Le Saint-Denis est vénéré de manière majeure, disons, par les Parisiens, au sens des habitants du Parisis. Et c'est un saint que le roi, dans ses actes, disons, appelle son « peculiaris patronus ». C'est une expression peut-être un petit peu lourde de sens qui signifie finalement, enfin qui marque l'attachement personnel, un attachement presque, on pourrait dire, disons, d'un affranchi, peut-être, disons, à l'antique, d'un attachement du roi à ce saint. Et on trouve l'expression dans plusieurs papyrus originaux, donc c'est une expression qui est bien contemporaine, qui n'est pas l'ajout, par exemple, des moines de Saint-Denis qui auraient voulu, en ajoutant une expression de ce genre, disons, flatter leur saint, s'il en avait besoin, hein, naturellement. Non, c'est vraiment une expression réelle, vraie, et qui pose d'ailleurs d'autres problèmes, c'est-à-dire que quelle est la part du roi dans la rédaction des actes à son nom. Qu'est-ce qu'il y a de personnel? On retrouvera là un petit peu cette question. Saint-Denis, c'est aussi, dès Clotaire II, un embryon de mausolée pour des personnes royales. Elle l'est depuis le VIe siècle avec la célèbre reine Arégonde. Mais c'est Dagobert, vénéré par les moines de Saint-Denis comme leur fondateur, qui est le premier roi à y avoir été inhumé. Bref, tous ces papyrus, même en lambeaux, sont précieux. Réservoir d'informations sur la langue pratiquée, sur les pratiques et les usages de l'écrit. C'est un réservoir aussi anthroponymique et toponymique très important. Un réservoir d'informations sur le palais et ses rouages, sur le fonctionnement des procédures. Ces papyrus permettent aussi, chacun à la mesure de ce qu'il offre, d'étalonner la valeur des actes royaux de la même période parvenus jusqu'à nous sous forme de copies. On l'a dit, c'est la question de la critique diplomatique. Toutefois, il faut le souligner, ces actes ne sont pas faits pour nous. Il y a des actes modestes, difficiles à contextualiser, d'autant qu'ils sont lacunaires. D'autres forment un dossier, et on devine leur importance pour le bénéficiaire. Il y a trois jugements de Clotaire III, donc entre 659 et 673, qui concernent des possessions très étendues et dispersées laissées par un nommé Hermélénus et contestées par différents personnages, dont un personnage important, l'évêque du Mans, Beracarius. Là, on comprend bien pourquoi ce dossier d'actes primitifs, d'actes originaux, a été conservé. Il faut souligner aussi autre chose, l'action du roi est souvent une réponse à des sollicitations de demandeurs qui demandent les actes, qui demandent des confirmations de biens, de droits, etc. Ce sont des actes aussi qu'on pourrait dire plutôt administratifs ou dont les ressorts politiques sous-jacents demeurent mystérieux. Mais il y a tout de même des documents plus politiques. On a un ou bien. Ou un document où on voit l'initiative royale, ce qui est donc rare. Et c'est le cas du diplôme de 654, où s'exprime un projet, où on explique une politique. Auparavant, je voudrais, avant de voir un petit peu ce diplôme, je voudrais me pencher sur les papyrus et évoquer, reprendre un petit peu la question que je posais, la part du roi sur les actes. Alors, une façon d'aborder cette question, ce sont les souscriptions royales. On voit au bas d'un long nombre d'actes ce qu'on appelle une souscription royale. Cette souscription, c'est un signe de validation qui conclut un processus de réalisation de l'acte. Mais attention, tous les actes intitulés au nom du roi ne portent pas une souscription royale. C'est même un critère qui permet de distinguer entre deux catégories d'actes royaux, les préceptes, qui confèrent ou confirment des droits, des privilèges, des statuts, et les jugements, ou plaquita, en latin, qui rapportent une décision prise en plaie, c'est-à-dire en session du tribunal royal. Il y a aussi d'autres catégories, mais ça, ce sont les deux grandes catégories. Et trois quarts des originaux sur papyrus, 9 sur 13, sont des préceptes, donc des actes confirmatifs ou conférant des droits. Plusieurs questions se posent au sujet des souscriptions royales. Qui inscrit cette souscription? Est-ce vraiment le roi? C'est la question de l'autographie de ces marques. Ces marques royales sont de différentes formes. Quel sens donner à ces différences? Et il y a la question de la présence d'un signe royal, ce qu'on appelle le monogramme. Que peuvent nous dire ces souscriptions aussi sur les rois? Alors, la question de l'autographie. Le témoignage, eh bien, de cette autographie, eh bien, on en a un et qui est assez émouvant, puisqu'il est sur le diplôme royal, sur original, disons, de, enfin, disons, d'un fils de Clovis II. On ne l'identifie pas, mais ce qu'il nous apprend est vraiment intéressant. Puisqu'en fait, on apprend ainsi, dans cet acte, par lequel Clovis II, enfin, un roi fils de Clovis II confirmé au matriculari, c'est-à-dire les pauvres inscrits sur la matricule. Donc les marguilliers, ce ne sont pas les marguilliers au sens, disons, actuel du terme, mais ce sont des pauvres, disons, enregistrés, auxquels on donne des biens, et on donne de la nourriture et des subsides, effectivement. Et ce roi fils de Clovis II souscrit les dispositions d'un précepte donné par Dagobert sur son lit de mort, mais souscrit à la place du roi par son épouse Nantile et son fils Clovis II. Et là, on dit, effectivement, que le calame tremblait dans les mains du roi, c'est pourquoi il ne pouvait souscrire de sa propre main, et c'est pour ça qu'il a été souscrit à la place du roi par son fils et son épouse Nantile. C'est un témoignage important parce que c'est un témoignage qui implique, d'une certaine manière, que l'on peut partir du fait que, eh bien, les actes sont les souscriptions sont plutôt originales. Alors, voyons quelques exemples de ces souscriptions. Celle de Clotaire II. Celle de Clotaire II, je suis désolé, disons, les souscriptions, là, sont très, très peu lisibles, mais je fais confiance à la ribambelle, j'ose dire, d'érudits savants qui ont lu, et bon, on les lit bien quand même, mais disons ces souscriptions. On a ici la souscription de Clotaire II, et on a la souscription donc, sur deux documents, et on peut voir un certain nombre de points importants, c'est-à-dire le fait qu'il y a une très grande, disons, ressemblance. Alors, je me trompe. Ici, Clotacarius, et on le voit aussi ici. Ensuite, on a la même formulation avec le In Christi nomine. Donc, ici. Là, ici. Nomine rex ex preceptionem, c'est le nom que l'on donne à l'acte. Ça peut être auctoritatem, mais c'est aussi preceptionem, donc c'est cet ordre écrit. Donc, j'ai souscrit au nom du Christ. Et il y a ce monogramme ici, que l'on devine ici, et on le voit aussi là. Ici, ça appartient à ce qu'on appelle la ruche, elle appartient à la souscription de chancellerie du référendaire, et on voit le terme ici, optolite, qui est le mot, disons, rituel par lequel le référendaire, celui qui établit l'acte, disons, est censé adresser l'acte au roi pour validation, et le roi valide. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un monogramme que l'on dit souvent être la marque de rois mineurs, qui, eux, sont dans, disons, c'est l'indication, le monogramme, c'est les lettres du mot, du nom qui sont associées, et on les a ici, ensemble, disons, réunis. Et normalement, enfin, disons, ce monogramme, eh bien, il est associé à des formulations à la troisième personne, commençant par signum, et qui sont des formulations de souscription de roi mineur. Alors, on peut se demander ici si le monogramme de Clotaire II, à un âge où il est puissant, où c'est un roi, enfin, disons, qui a 40aine d'années, il est né en 584, eh bien, on peut se demander si ce n'est pas un monogramme qui serait le souvenir ou bien la tradition d'un roi qui est devenu roi très jeune et qui a d'ailleurs beaucoup souffert. On pourrait dire que c'est le roi de la résilience, notre Clotaire II. Et ce monogramme pourrait être donc un témoignage de la volonté du roi, disons, de s'inscrire dans cette tradition, disons, ancienne, et dans des décennies, effectivement, d'un règne qui a commencé sous de très mauvais auspices, mais qui a été rétabli à partir de 613-614, après la débâcle de l'année 600, où là, il n'avait plus que 12 petits pagis, donc des comtés sous sa, enfin, sous son administration, sur son pouvoir. Voilà pour Clotaire II. Vous remarquerez, souvenez-vous, vous voyez l'écriture, une écriture posée et qui contraste énormément avec celle de Dagobert. Je vous ai mis ici les transcriptions de Le Trône au milieu du XIXe siècle, vraiment qui a fait dessiner, disons, et qui, finalement, nous les restitue de manière bien utile pour nous, parce que c'est parfois beaucoup plus lisible que ce qu'on voit sur les originaux, du moins, disons, dans l'usage courant. Ce qui est intéressant avec Dagobert, c'est cette cursivité, cette rapidité du trait. Dagobert est connu pour sa dévotion à Saint-Denis. Lui aussi, pour lui aussi, c'est le peculiaris patronus. Mais qu'est-ce que l'on voit ici? Rien. Il n'y a pas de In Christi Nomine. Il y a ici, il n'y a pas de marqueur religieux spécifique. On a ici Dagobertus Rex Sum, pour subscripti. C'est quelque chose de très laconique, très direct. On ne peut pas dire brutal, pas du tout, ce n'est pas ça. Mais c'est quelqu'un qui, visiblement, a appris à écrire et à l'usage de cet écrit très nettement. Troisième exemple, maintenant, c'est le problème de Clotaire II. Et ici, on illustre un petit peu les questions du roi mineur. Sur un acte qui est conservé, eh bien, on voit, sous une forme qui n'est pas subjective, comme on dit, mais objective, la troisième personne, signum, monogramme, Dominique Lodovio, Regi. Et on voit ici la trace, disons, on voit bien ici, et on le voit un petit peu là, effectivement, le monogramme de Clovis II, précédé de signum que l'on devine. Et à la suite, commençant ici, et qu'on retrouve là, donc la souscription de la reine Nantilde. Souvenez-vous que notre bon Clovis II, il est né en 634-635. Et il est sous la tutelle, sous la régence de la reine-mère, Nantilde. Et elle souscrit, et elle aussi, la troisième personne, et avec, disons, un monogramme. Alors, Mabillon a donné aussi un dessin, peut-être un petit peu plus lisible, mais peut-être aussi plus interprété de ce monogramme. Toujours est-il que je préfère m'en remettre là à Le Trône. Alors, comment passe-t-on du roi mineur au roi régnant? Eh bien, on le voit ici, on passe, effectivement, avec l'abandon de la troisième personne pour la première personne, ici, là où nous sommes en 654, et on a le Clodovius, magnifique, enfin, disons, affirmation de la splendeur royale, Rex, Sub, et puis ce monogramme, qui demeure, là encore, alors que le Clovis II a 19 ans en 654, 19 ans, 20 ans, une vingtaine d'années. Et on voit d'ailleurs dans le monogramme où on peut lire bon, le C, L, R, etc. Parce qu'il y a le O ici, il y a le D là. Enfin, on devine et on interprète aussi Clodovius, effectivement, mais c'est le même dessin ou à peu près que celui qu'il avait quelques années quand il était plus petit, quand il était enfant. Eh bien, on a l'affirmation de Rex entre les deux montants de ce monogramme qui, pour un lecteur comme nous, eh bien, s'apparente presque à une sorte de siège, de cathèdre. Mais, naturellement, c'est sans doute de l'interprétation. On voit, disons, comment ces souscriptions peuvent nous donner des informations sur ces rois et nous apprennent des choses aussi sur la façon dont ces rois étaient peut-être élevés. En tout cas, ils étaient, disons, alphabétisés de manière très, très soignée. Et l'on voit à travers la différence d'écriture aussi qu'il y avait aussi d'autres écoles. Pour terminer, je parlerai donc simplement de ce diplôme de 654. Un diplôme pris à l'initiative donc, du roi. Un diplôme, je passe tout de suite là, qui est une confirmation du privilège établi par l'évêque de Paris, Landry, en faveur de Saint-Denis. C'est une sorte de privilège statutaire qui accorde à Saint-Denis des libertés, et notamment, sur le plan temporel, disons, une immunité à l'égard des puissants laïcs et des évêques puisqu'on le roi leur interdit de prélever quoi que ce soit, quelques biens, objets liturgiques, biens, possessions, etc., qui auraient été donnés à Saint-Denis par les rois, lui-même, ses parents, les fidèles. Et puis on voit qu'il y a une dimension un petit peu programmatique. Saint-Denis, on le dit, a une mission publique, celle de prier continuellement. C'est ce que l'on a appelé la laos perennis, mais le terme, l'expression n'est pas dans cet acte-là. En revanche, la prière continuelle, elle l'est exprimée. Et d'autre part, on répète effectivement dans l'exposé à quel point le souverain est particulièrement dévoué aux saints et à la communauté religieuse qui abrite les reliques du saint. On sait que, mais par un ouvrage que l'on appelle le Liber Historiae Francorum, qui est une sorte de recueil anecdotique, qui est parfois un petit peu, disons, mauvaise langue, et disons, il aime bien les anecdotes, mais on dit, on raconte que Clovis II aurait tellement aimé Clovis Saint-Denis qu'il aurait voulu lui soustraire un bras, disons, de ses dépouilles, de la dépouille du saint, et qu'il en serait devenu fou. Il aurait perdu, il aurait souffert d'amnésie pendant quelques années. Il se serait rétabli dans les trois dernières années de sa vie, mais, disons, on aurait gardé des séquelles. On ne sait pas ce qui s'est passé, etc., et on ne sait même pas s'il y a une once de vérité dans ce propos du Liber Historiae Francorum qui date de plusieurs décennies, disons, du début du 8e siècle. Par conséquent, ce témoignage, disons, est très sujet à caution. En revanche, il correspond tout à fait à ce que l'on voit, c'est-à-dire un roi particulièrement dévoué à Saint-Denis. Et ce qui est intéressant à noter avec l'original, c'est que l'on voit à quel point cet acte a été préparé pour recevoir les souscriptions des grands, alors que les autres diplômes royaux ne sont pas pourvus de telles souscriptions. On voit que l'espace a été divisé en deux, ici, le texte et l'espace des souscriptions. Alors, ces souscriptions font rêver. Disons, on peut fantasmer à loisir. Qu'est-ce que ça représente? Je vous donne une image qui vous donnera à quel point une idée à la fois du travail de Le Trône au XIXe siècle et également de la complexité de ces souscriptions qui sont autographes ou bien, en tout cas, personnalisées. Partie centrale, avec ici, naturellement, la souscription royale, et puis la partie droite. Alors, on a voulu voir dans ce diplôme l'image d'une assemblée, un peu à la Saint-Simon, c'est-à-dire que chacun était à sa place, là où il fallait, et puis, disons, cet espace de l'acte, ici, représenterait en somme une salle du trône, une salle où se réunissent les grands, et trône. Eh bien, tout à l'heure, on a vu que ça ressemblait à une cathédrale, un fauteuil royal, si on peut dire, ce monogramme. Eh bien, on aurait l'impression que le roi est là et il y a à gauche, au centre, à droite, c'est grand. Alors, il y a un peu de vrai là-dedans, certainement. C'est une idée qui a été évoquée dès 1926 par le grand historien Léon Le Villain, spécialisé de l'époque mérovingienne, et qui a été reprise récemment par Alain Stockley dans un livre de 2013. Là, on a effectivement plutôt près du roi les évêques. On en voit 14. Et il y a des grands. Ce serait plutôt ici, disons, les grands de l'administration centrale. Je passe sur les détails. Ici, peut-être un peu plus un entourage propre de personnes plus directement liées au roi. Et à droite, disons, plutôt l'administration provinciale, comme on dit. Alors, ça marche pour certaines choses, mais pas pour tout. En tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'est la diversité des souscriptions. Ici, vous avez un fameux Eligius Episcopus, hein, Christi nomine Eligius, c'est notre bon Saint-Éloi. En dessous, dans une écriture très différente, il faut voir que Saint-Éloi était monétaire. C'est un orfèvre d'un talent, paraît-il, incroyable, ce qui fait qu'il a pu monter à Paris, qu'il est allé au palais de Clotaire II, et on raconte à quel point, parce qu'on a une vie qui est plutôt une biographie qu'une géographie. Dans sa biographie, on nous dit à quel point il était scrupuleux, à quel point il était précis, à la fois dans son travail d'orfèvre et quand il s'agissait de fonder les droits de ses fondations monastiques, ecclésiastiques. Et ici, on a Landry. Vous voyez, l'écriture est très différente. Le fameux évêque de Paris, effectivement, qui donnait un privilège à Saint-Denis, un privilège d'émancipation, de liberté, je n'insiste pas, mais disons ce privilège qui a été confirmé par le roi. Et ici, le maire du palais Radobert, et vous voyez qu'elle est signum, effectivement, avec un signe de validation. Et là, on a effectivement le Radoberti qui s'exprime bien, et on a aussi, d'ailleurs, une formule, disons, qui auparavant donne son titre, puisqu'on a le V et in, V in NL, vir in luster, donc, et on a le nom Radoberto, etc. Donc, voici donc, quelques exemples. D'autres éléments, à droite, administration provinciale, disait-on. Eh bien oui, peut-être parce qu'on a un patrice, et il souscrit avec une longueur, effectivement, où il donne toute sa, disons, tout son titre, et en toutes lettres. Et puis là, on a une petite chose, effectivement, qui est étrange, Hébroanus. Eh bien, on se dit que c'est peut-être Hébroin, le futur maire du palais en 658. Et ici, je vais ajouter pour vous cette marque de chancellerie, le bénévaliat, je n'insiste pas là-dessus, mais c'est proche peut-être de cet endroit que l'on considère comme peut-être, probablement même, l'emplacement du sceau, puisque ces papyrus, du moins certains d'entre eux, étaient, disons, étaient scellés. À propos des Bruneux, je dirais tout simplement une chose, c'est qu'on s'est aperçu récemment, puisqu'il y a un travail qui a été fait, notamment par une restauratrice spécialiste du papyrus, Solène Gérard, on s'est aperçu que quelques-unes de ces souscriptions n'étaient pas dans la même nature d'encre que les autres. Et celle des Bruneus n'est pas de la même nature. Alors, est-ce que cette souscription aurait été rajoutée, et donc à un autre moment, ce qui est une pratique attestée sur d'autres types de documents? Est-ce que c'est une question purement ponctuelle et conjoncturelle quand on est changement d'encre, effectivement? Mais c'est à noter. En tout cas, c'est un apport nouveau, des recherches purement papyrologiques qui sont développées depuis 2-3 ans aux Archives nationales autour de cette collection unique de papyrus. Je vais peut-être m'arrêter là, j'aurais bien voulu parler tout simplement du passage du papyrus au parchemin, mais je vous dirai une chose. Voilà ce que l'on voit. Pour les acteurs royaux, pas de tuilage papyrus-parchemin constaté, il y a une impression de rupture. Pour les actes non royaux, vous voyez qu'il y a un tuilage constaté. C'est peut-être significatif. Il est possible que ce ne le soit pas aussi. Que sait-on ? Le passage du papyrus au parchemin, problème d'interprétation épineux aussi, parce qu'on ne sait pas vraiment l'interpréter. On peut quand même envisager qu'il s'agisse d'une initiative de la chancellerie royale, peut-être du roi, parce que, et là, je n'insiste pas, je n'ai pas le temps, le changement de support s'accompagnait de changements dans la typologie des actes. En tout cas, on a vu récemment que la qualité des papyrus royaux mérovingiens était très bonne, et même cette haute qualité des papyrus a étonné des spécialistes de papyrus. Par conséquent, on peut relativiser la question largement débattue d'une rupture dans l'approvisionnement. On n'a pas forcément eu besoin d'aller dans la mauvaise qualité pour avoir du papyrus. Non. C'est donc qu'il y a eu peut-être décision. Voilà. Je m'arrête là. Je vous remercie beaucoup. Merci.